Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et à toutes. On attaque le mois de mars avec un sujet qui me passionne. Bon, ok, vous allez me dire, Camille, à chaque fois tu nous dis que ce sujet te passionne. C'est vrai. Beaucoup, beaucoup de sujets en sexologie me passionnent. Mais la sextech, ça me passionne, vraiment. Ce combo entre sexualité et technologie, moi qui ai vécu dans la Silicon Valley pendant quelques années, ça résonne très fort en moi. Vous allez voir avec mon invitée d'aujourd'hui, Christelle Bonny, on va parler de ce qu'est la sextech. On va voir justement aussi des exemples de projets qui existent dans la sextech, ce secteur très prometteur. On va aussi discuter des bonnes choses qu'on peut trouver dans la sextech et aussi peut-être des fois des limites, des dérives ou des choses qui peuvent être améliorées. On va voir que dans ce secteur innovant, c'est aussi assez difficile de trouver des financements pour le moment. Et puis, on va se demander aussi, tiens, quel est l'intérêt pour les sexologues de se pencher dans ce milieu de la sextech. Je tiens aussi à m'excuser pour les premières minutes de cet épisode où je balbutie pas mal, je sais pas si ça se dit, mais où je ne trouve pas facilement mes mots parce que j'ai été dérangée à un moment du podcast et donc ça a été coupé au montage. Mais il n'empêche que dans les premières minutes, les 5 premières minutes, je trouve que je ne suis pas très claire dans mes propos. Je m'en excuse, mais restez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. Très bonne écoute. Quand on parle de sexualité, on ne peut pas passer à côté de la sextech. Ce marché au grand potentiel économique, estimé à plus de 108 millions de dollars en 2027, regroupe tous les produits, technologies et services innovants dans ce secteur. Le but de la sextech, améliorer, enrichir nos vies intimes en mettant à disposition des produits bien-être pour répondre à toutes les demandes de manière les plus inclusives possible. Ce secteur que j'ai découvert lors de mon autre vie à San Francisco en 2015 est la passion de Christelle Bonny, mon invitée. Christelle est une entrepreneure militante, présidente de Sextech for Good et créatrice du compte Instagram Sexualité Positive. C'est une pionnière dans le monde de la sextech et encore plus en francophonie. On se suit de loin depuis des années et c'est durant ma grossesse au printemps 2022 que l'on s'est fait une visio pour la première fois pour vraiment échanger en face-to-face. Elle nous fait l'honneur de passer une petite heure avec nous pour tout nous expliquer. Christelle, bienvenue sur Camille parle sexe.
Bonjour Camille, ben merci beaucoup, l'honneur il est partagé, il est pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Et c'est pas 108 millions, c'est des milliards.
Ah, c'est des milliards, bah tu vois, même moi déjà ça me semblait, gigantesque, mais c'est des milliards. Bon, bah, tu fais bien de me reprendre. Mais du coup, ce secteur-là de la sextech qui vaut des milliards et des milliards, c'est quoi exactement la sextech ?
Écoute, il va y avoir plusieurs définitions, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, d'utiliser, de voir le potentiel de toutes les technologies qui existent et comment, en fait, on peut les intégrer pour répondre à toutes les problématiques de des sexualités. Et donc, ça veut dire comment on s'intéresse à la fois à l'éducation, à la santé et évidemment au plaisir. Donc, ça va être plein de choses. Évidemment, on pense tout de suite aux toys, aux choses connectées pour le plaisir des couples. Mais c'est aussi comment on adresse et comment on trouve des solutions pour les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes qui ont des douleurs ou comment on améliore l'éducation à la sexualité et la sexualité des seniors, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est comment avec ces nouvelles technologies, on peut, comme tu le disais en intro, vraiment venir enrichir, diversifier et permettre peut-être déjà dans un premier niveau d'accéder à de meilleurs contenus, une meilleure éducation et déjà d'accéder à une sexualité quelle qu'en soit la forme.
Mmh. Oui, et les plus inclusives possibles, comme tu disais, parce que ça peut vraiment répondre à des outils complémentaires à la sexualité pour les personnes, par exemple, en situation de handicap, pour des personnes qui ont des difficultés dans leur sexualité, dans leur manière de faire interaction avec d'autres personnes. C'est ça, en fait, le projet aussi de la sextech, c'est vraiment de pouvoir répondre à des demandes. Tu parlais justement de la sexualité des seniors, tu parlais aussi des personnes en situation de handicap. Pour être plus dans le concret, parce que la première fois que j'ai découvert ça, moi, c'était vraiment avec le VR et avec le porno, donc le VR, la virtual reality, je vais y arriver. Et c'était vraiment quelque chose aussi, une expérience du coup complètement nouvelle pour moi. Et c'est ça aussi qui est passionnant, parce que c'est complètement innovant, c'est des outils qui sont nouveaux et qui vont demander aussi une forme d'éducation. Qu'est-ce qu'il y a en fait de concret pour les consommateurs, consommatrices de la sextech ? Qu'est-ce que la sextech peut leur apporter vraiment ?
Alors en fait, ça peut être plein de choses. C'est vrai que les expériences dont tu parles, où on va voir des startups comme Imbu VR et Kathleen Spouse, qui font vraiment des expériences très poussées dans ces univers-là, comment la sexualité dans les univers vraiment type méta ou autre. C'est vrai que là, c'est pour une petite population, enfin une petite partie de la population, vraiment de early adopters ou des gens qui sont vraiment dans l'expérience. Mais bon, souvent, il faut être équipé d'un casque de réalité virtuelle pour regarder, donc c'est pas forcément le plus accessible. Par contre, c'est toujours des secteurs qu'on regarde avec intérêt parce que quand ça commence à marcher, forcément, dans le domaine de l'innovation, c'est toujours dans le domaine de la sexualité qu'il y a les premiers business, les premiers services. Donc, c'est toujours un driver de regarder ce qui s'y passe. Et ça peut permettre, par exemple, des fonctionnalités comme se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, bon, il y a plein de choses sur le fantasme, sur les questions de genre. Mais c'est vraiment des technologies qui sont très poussées, qui ne sont pas encore un petit peu élitistes, on va dire, parce qu'elles ne sont pas très démocratisées. Par contre, la sextech, c'est aussi des choses très très simples comme, bien sûr, les sextoys qui peuvent parfois permettre juste à des femmes de franchir un pas parce qu'elles n'ont jamais osé découvrir leur sexualité. Il leur faut un objet peut-être de transition pour oser. Et c'est vrai que ça a démocratisé beaucoup aussi le sujet de la masturbation et du plaisir féminin. C'est vrai. On voit aussi que, 95% de l'industrie de la sextech, elle est lidée par des femmes. Et c'est pas neutre. C'est-à-dire que c'est toutes des femmes et notamment post-MeToo qui se sont dit, OK, c'est bon, le plaisir est un vrai sujet. Il compte autant le nôtre que celui des hommes et on va arrêter d'attendre qu'ils fassent des produits pour nous, donc on va les faire et surtout on va communiquer dessus différemment, on va vraiment en faire des outils de bien-être, de santé, d'équilibre, d'empouvoirment. Ça, c'est vraiment mon côté sexpowerment qui est vraiment important. Donc voilà, il y a toute cette diversité de toys qu'on a eu à disposition. Ça peut être aussi des plateformes, tu vois, comme Climax, hein, qui permettent vraiment aux femmes de se découvrir, d'apprendre leur corps, des techniques pour se caresser et au moins pour se dire, OK, en fait, on est autant de femmes peut-être que de techniques, mais ce qui est important, c'est de s'autoriser à et de découvrir. Ça va être des applications pour suivre sa santé, parce que c'est aussi un élément de santé. Et souvent, des fois, on est un peu seul face à des questions un peu taboues qu'on n'ose pas poser. Donc, des applications type MySLife. Ça va être aussi, il y a des cosmétiques. C'est vrai que, par exemple, des baumes pour les vulves, alors on va dire peut-être c'est moins plus femtech que sextech, mais c'est des produits qui n'existaient pas avant. L'utilisation du lubrifiant, encore une fois, c'est pareil. Ça devient maintenant mainstream, mais ça ne l'était pas il n'y a encore pas si longtemps. Donc, il y a plein de choses que la sextech a permis comme ça d'aborder, de démocratiser. Et dans les services, ils sont vraiment nombreux. Donc, que ça soit des cosmétiques dans les toiles. Après, il y a encore plein de sujets qui ne sont pas adressés. C'est vrai que quand on s'intéresse à la sécurité des personnes en situation de handicap ou les seniors, là, c'est vrai que tout de suite, et ça s'explique, c'est-à-dire que déjà, la sextech, elle est compliquée à financer pour lancer des projets. Donc, quand on cumule les tabous de sexualité et d'autres, ça devient quasiment presque impossible.
Ben justement, en venant sur les financements, comme ça fait la transition, parce que c'est un secteur innovant et qui est en recherche de financement. Et tu disais, il y a quand même une majorité de femmes qui lead ces projets-là et qui font face à des investisseurs qui sont quand même en majorité des hommes et qui des fois se font rire au nez par rapport à leurs projets. Et c'est peut-être quelque chose que tu as peut-être vécu parce que toi, c'est en 2014, si je ne me trompe pas, que tu as commencé à t'y intéresser avec des livres audio connectés à un sextoy. Donc, carrément innovant en 2014, vraiment, on ne parlait même pas encore des audios érotiques. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Puis justement, la difficulté de financement.
C'est vrai qu'en 2014, c'est pour ça que j'ai le titre de pionnière de la sextech, parce qu'on était vraiment la première start-up française de la sextech, un peu par hasard, le mot n'existait même pas à l'époque. Et c'était que cette idée, effectivement, de connecter, de se dire, en fait, là, notre cerveau est notre premier organe sexuel, et nous, les femmes, on est très sensibles aussi à tout cet imaginaire érotique, les hommes aussi, évidemment, mais les femmes, à l'époque, lisaient plus de livres érotiques, et on était en plein succès aussi de Fifty Shades of Grey, de dire, OK, comment on peut aller un petit peu plus loin dans le jeu quand déjà on se met dans une position intime de lecture de quelque chose d'érotique. La littérature érotique, elle est faite pour donner des sensations, donc on avait connecté le toy en se disant, voilà, on peut aller prolonger l'expérience. Et c'était intéressant parce que je pense que c'était aussi une des premières fois où il y avait un toy qui était pensé par une femme pour les femmes. Et c'était très marquant pour moi à l'époque parce qu'on a créé donc, le Little Bird. À l'époque, était un œuf vibrant connecté. Et c'est vrai que les seuls qui existaient sur le marché, quand on voyait le packaging, ce qu'on voyait sur le packaging, c'était très rigolo. Ce n'était pas une femme qui prenait du plaisir, c'était un homme qui prenait du plaisir à tenir la télécommande. Et donc, c'était de se dire, OK, alors mais non, en fait, on va changer ça. On va vraiment faire un toy pour que ce soit vous qui décidiez et de la manière dont vous voulez prendre votre plaisir, soit en lisant en solo, soit en invitant un partenaire à jouer avec vous, mais c'est vous qui allez décider de comment vous allez faire. Et c'était très nouveau aussi d'avoir un sextoy qui s'intéressait aussi plus au contenu, en se disant, voilà, le sextoy, il est là pour amplifier des sensations, mais ce qu'on propose, c'est vraiment une expérience et de faire fonctionner vos fantasmes et votre imaginaire érotique. C'est souvent ça dont on a besoin pour relancer sa sexualité. J'ai rien contre le porno, mais c'est vrai que quand on regarde une image porno, ça peut exciter, mais l'image est là, on n'a plus rien, on n'a pas d'effort à produire pour se mettre dans cette situation de désir. Et donc voilà, et c'est vrai que être une femme à l'époque, non ingénieure, lancer un projet innovant et dans le milieu de la tech, donc on n'était pas beaucoup de femmes, et de parler de plaisir féminin, ça faisait beaucoup.
Mais quel enjeu, quoi. Wow, quel courage aussi, comme tu dis, première dans tout, sans être ingénieure, sans que ce milieu, on le connaisse vraiment encore en francophonie. C'était vraiment les tout débuts, quoi.
Oui, mais alors c'est vrai que ça a été ma révolution à moi personnelle, parce que je me suis aperçue que moi, comme beaucoup de femmes, je n'avais pas fait ce chemin de réflexion sur moi, sur mon plaisir, sur ma liberté, sur les injonctions, sur la manière dont j'avais été élevée, sur l'impact du système patriarcal, sur ma vision de moi, de femme, les croyances limitantes que j'avais intégrées. Et c'est vrai que les premières fois où vraiment j'ai eu des problèmes en rencontrant des gens, et notamment des hommes qui étaient soit très agressifs en me disant « vous voulez remplacer les hommes par du plastique », ou alors qui rigolaient en me disant « non, on va pas t'aider parce qu'on va pas se tirer une balle dans le pied », voilà, avec un raccourci complètement nul sur le sextoy, c'est notre ennemi, mais non, ça peut être votre meilleur ami, messieurs. Et donc j'ai découvert ça, et au début, très honnêtement, Camille, je suis allée, moi, vraiment, j'avais sous-estimé tout ça, l'ego masculin, les problèmes, Moi, dans mon idée, je me dis, bah oui, le sextoy, il existe depuis la préhistoire et les livres érotiques étaient beaucoup plus trash au XVIIIe siècle. Donc, j'y allais vraiment en me disant, oui, je sais que je vais pas, ça va pas plaire à tout le monde, mais j'avais pas l'impression que c'était aussi, ça allait être aussi compliqué. Et ça m'a permis, moi, de m'intéresser à l'histoire du plaisir féminin et de aussi vraiment comprendre toute sa dimension politique et de devenir aussi quelqu'un d'autre et du coup de devenir une entrepreneure beaucoup plus militante et engagée, ce qui a complètement changé la nature du projet. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui de m'animer parce que je vois aussi très très bien dans les femmes et dans la construction et toutes ces femmes à qui on dit faut briser le plafond de verre, à quel point aussi elles ont été construites justement pour pas y arriver. Et ça passe en grande partie par la sexualité et tout ce qu'on nous a interdit de ressentir, d'être un sexe fort. Et d'être dans cette autonomie, y compris sur nos corps et sur notre plaisir. Voilà, donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la sextech, il y a toujours des problèmes, même si ça évolue, il y a toujours des problèmes de financement, parce que dans la sextech, comme dans la femtech, effectivement, il y a cette double peine d'être des entrepreneurs femmes, donc ils sont nettement moins financés, hein. 4% des fonds levés vont à des startups créées par des femmes, c'est peu.
C'est rien donc, du tout.
voilà. Et donc il y a cette double peine d'être femme entrepreneur et de porter des sujets, effectivement, dont certains nous disent encore, quand ils concernent 52% de l'humanité, que ce sont des sujets et des marchés de niche.
Et justement, est-ce que tu dirais que c'est de par tous ces obstacles et du coup même une introspection, j'entends vraiment pour toi ça a été vraiment une introspection vraiment au cœur de ton intimité, mais du coup aussi en y associant la politique, en y associant la sociologie, que tu es amenée doucement à créer Sextech for Good, ton association?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est vraiment une introspection, c'est vraiment un changement de vie, c'est vraiment de comprendre la citation là de Simone de Beauvoir, une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère, de avoir compris ce que ça voulait vraiment dire, parce qu'à quel point ça peut vous coûter dans la vie, ça peut faire des dommages de choisir vraiment d'être libre et de faire ce qu'on a envie de faire et de l'affirmer et de le revendiquer. Et quand mon entreprise s'est arrêtée en 2018, c'était assez évident pour moi, parce qu'il y a un côté très thérapeutique de se dire comment je transforme en fait un échec en quelque chose. Si ça reste un échec, je n'en fais rien. Il y a cette histoire de rebond, de résilience. Et donc pour moi, c'était de me dire, ok, je peux pas avoir supporté ça, enfin défendu tout ça pendant 4-5 ans, m'être trouvée super alignée dans ce combat, de m'être trouvée moi, sans doute en tant que femme, en tant que maman, et est-ce que ça s'arrête comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le collectif Sextech for Good, en me disant, ok, je vais mobiliser tout ce que j'ai appris, mon réseau, et si je peux aider d'autres à réussir, ce sera chouette. Et puis, si je peux faire en sorte qu'un jour, on dise, ah oui, la sextech est un vrai secteur d'innovation, et je l'ai appelé Tech for Good, parce que pour moi, c'est un secteur d'innovation à impact sociétal fort. Beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, mais je vais continuer à le dire longtemps, je pense. C'était cette démarche-là. Et puis, à faire venir, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, Manon Cauchois, donc de Tolcu, avec qui tu échanges aussi, m'a rejointe. Et depuis, maintenant, il y a une quarantaine de startups dans le collectif. On commence à faire des actions qui sont plutôt sympathiques et qui portent des messages forts pour l'ensemble des gens qui s'engagent et qui innovent dans tous les domaines de la sexualité. Et voilà, on avance doucement, mais on avance avec toute cette force et cette énergie collective. On va toujours plus vite. Donc voilà, mais c'est effectivement cette première expérience, elle a été très structurante pour moi.
Et des apprentissages, tu vois, vraiment, de comprendre tout ce qui a pu bloquer, mais en même temps, de par ces obstacles que tu as eus, ce network que tu avais construit, les apprentissages que tu en as fait, tu as pu rebondir et te mettre au service, finalement, en fait, de la sextech. Comme tu disais, d'essayer d'aider d'autres, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Alors, tu as la tête de ça et j'ai l'impression quand même, en même temps, tu comme une maman, en fait, je vais dire ça comme ça, comme une maman de la sextech, où tu prends sous ton aile toutes ces personnes-là qui créent justement des entreprises formidables dans le bien-être sexuel. Tu les prends comme ça sous ton aile pour aller plus loin vers cette mission qui est au-delà de toi, en fait.
Oui, qui est importante parce que j'ai 2 filles qui ont 18 et 22 ans, donc c'est aussi de me dire tous les jours, quand je m'engage pour ça, de dire je n'ai pas envie de prendre le risque qu'un jour elles vivent dans une société qui est moins libre, où elles auraient moins de liberté que ce que moi j'ai, et parfois on le voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis ou les replis, ou même en ce moment, le fait de vouloir inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui me semble absolument essentiel, parce qu'on peut absolument jamais être sûr, on le voit bien, que des droits acquis le sont pour toujours, donc il y a encore beaucoup de boulot à faire, et qu'elles perds pas le temps que moi j'ai pas passé peut-être sur les 20 premières années de ma vie aussi à pas me connaître, à pas me prioriser, à pas penser à mon plaisir, à pas me sentir suffisamment forte, confiante, légitime. Et tout ça, ça passe aussi en grande partie par le corps, la sexualité, la liberté et l'audace qu'on s'autorise à avoir. Donc c'est vrai que ça reste un fil conducteur. Je suis assez maternante, c'est vrai qu'avec les startups, souvent on me dit mais pourquoi tu remontes pas une boîte? Je dis je pourrais en monter une et faire un projet, et là j'en aide 80, et maintenant en plus il y a une autre association, Femtech France, vraiment sur la partie santé, donc j'en aide encore plus. Donc voilà, après peut-être qu'un jour je referai parce que je mène aussi des projets de recherche à côté, parce que j'ai suivi une année de formation aussi en sexothérapie, alors j'ai ma certification, ce que je pense ne suffirait pas pour moi vraiment à donner dans des consultations comme le métier que tu fais, je pense, de manière admirable, mais par contre ça a vraiment enrichi mes connaissances et mes points d'interrogation sur où est-ce qu'il y a encore des besoins et comment vraiment ça peut aider les gens. Donc je ce côté peut-être maman de la sextech, mais qui me va bien, qui me va très très bien.
Ouais, que du coup t'es même dans du consulting, quoi, et parce que ton niveau de connaissance dans ce domaine-là est plus en parallèle, comme t'as fait ta formation en sexothérapie. Dans le milieu vraiment de la sexualité, c'est une richesse en fait pour toutes les personnes qui débutent, se lancent ou rencontrent, hein, parce que c'est pas juste facile en un claquement de doigts. Tu les accompagnes là-dedans de par tout ton savoir, et ça a une valeur aussi.
Écoute, j'espère pour eux. Moi, je sais que là aussi où j'essaie vraiment de pousser, c'est pour qu'on ait de plus de projets innovants. Parce que on dit ok, c'est compliqué à financer la sextech. J'entends aussi que de nos investisseurs nous disent souvent. On nous présente aussi, notamment en France, des projets qui sont pas aussi assez innovants d'un point de vue technologique et qui sont pas assez pensés pour l'international. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette fibre-là, très techno, très tech. Je suis assez geek. Je suis pas ingénieur et je comprends pas du tout comment ça marche. Par contre, ce qui m'intéresse toujours, et ça m'a toujours passionné, de me demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Et là, par exemple, sur Sextech for Good, on a commencé à avoir des échanges vraiment passionnants avec des gens qui sont dans des laboratoires du CNRS ou des réseaux INRIA pour dire, présentez-nous des technos sur lesquels vous travaillez, et ça va peut-être nous donner des idées, ça va peut-être permettre à des startups d'accélérer ou d'imaginer des nouveaux produits. Par exemple, le jour où on m'a proposé, parler des matériaux que je ne connaissais pas, qu'on appelle des matériaux 4D, qui peuvent changer, par exemple, de forme quand elles sont dans un contexte d'humidité ou de température différent. Forcément, tu te dis, ok, donc il y a des sondes, il y a du vaginisme, il y a des problèmes. Et là, moi, dans ma tête, ça va très, très vite. Moi, je ne peux pas monter 15 000 boîtes. Mais par contre, je me dis, waouh, d'amener ça à des porteurs de projets, d'amener ça à des startups et de se dire, ok, si on fait ça, si on fait se rencontrer des mondes d'innovation, de recherche, de thérapeutes, d'entrepreneurs, on doit pouvoir multiplier les projets, des projets plus innovants et qui vont répondre comme ça à encore plus de besoins de plus de personnes. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille qu'on puisse tous vivre dans une société qui est plus joyeuse, qui est plus libre, qui est plus inclusive. Et voilà, et où chacun pourrait accéder à un minimum et à un maximum, on va dire, soit ambitieux, de plaisir.
Et Sextech for Good, ça fait tout son sens quand tu dis justement, de par ce marché innovant, de par les différents projets qui peuvent exister, que même du coup la recherche, c'est ça, les chercheurs s'inspirent de ça et sont en demande de « ok, proposez-nous, dites-nous ce que vous êtes en train de faire pour que nous, on puisse avoir des thématiques sur lesquelles aller creuser en termes de recherche », c'est bien ça. Et par exemple, est-ce qu'il y a des recherches en cours par rapport à ça?
Alors c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans la démarche d'avoir des chercheurs qui, et c'est souvent dans le cadre d'un laboratoire, qui ils sont super pointus sur des sujets comme les matériaux, par exemple, et en fait, ils n'ont pas forcément de fibre entrepreneuriale, donc ils travaillent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément d'idée d'industrialisation. Donc tout le travail avec nous, c'est de dire, ok, comment en fait on fait du transfert de technologie de ce que vous êtes en train de faire? Et c'est vrai que l'étape d'après, c'est ce que je commence à faire, par exemple, à Brest, dans un projet de recherche avec un laboratoire d'open innovation et une fondation qui a des établissements et qui accueille des populations soit de seniors, soit en situation de handicap, de dire comment on fait aussi pour aller plus loin et avoir une expression de besoin plus précise, parce que les seniors et les personnes en situation de handicap, c'est des généralités, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais comment on peut arriver à définir et à affiner des besoins pour pouvoir mettre effectivement en face des solutions, dont certaines viendront peut-être de labos ou de techno, qu'on a sourcé. Mais aujourd'hui, ce monde-là, ils se parlent pas, et c'est tout le sens de Sex Tech for Good, d'arriver à créer ces synergies, de construire cet écosystème pour que les gens se parlent et qu'on arrive à faire matcher les gens qui identifient des besoins et les gens qui ont des solutions techno et au milieu des porteurs de projets qui ont cette culture business, parce que voilà, il faut mettre tout ça en musique, puis il faut le vendre, il faut le commercialiser, il faut trouver les modèles économiques, c'est pas simple. Et on travaille aussi, maintenant je suis très contente avec deux fonds d'investissement qui nous disent ok, ça y est, nous on a compris et ça nous intéresse, donc on est prêt à les financer, à condition effectivement que les projets soient comme les autres, hein, qu'ils aient même garanti le même potentiel d'innovation et de commercialisation. Voilà, c'est pas un monde de bisounours, il faut gagner aussi de l'argent, mais voilà, ouais. C'est intéressant, donc tout ça c'est long, mais voilà, petit à petit ça se construit.
Et j'entends beaucoup là de ce que tu disais, parler de produits. Est-ce que aussi les investisseurs peuvent être intéressés pour de l'éducation sexuelle, mais sans passer par des produits? Tu vois, tu citais par exemple Climax où il y a Oh My God Yes aux États-Unis. Est-ce que les investisseurs peuvent être vraiment intéressés aussi autre que des produits, du matériel?
Alors, c'est vrai qu'en France, même le matériel risque de leur faire très peur. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas tant que ça qui se lance. On a de très belles réussites avec le Coco, par exemple, de Puissante. Et Marie a été admirable sur la manière dont elle a développé son entreprise. Ils vont un peu dans les cosmétiques. Et sur tout ce qui est app, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il y a des jeunes startups là, qui ont quand même réussi à lever un peu de sous, comme les filles de Gabi qui ont une app de dating un petit peu différente. Il y a des nouvelles applis qui arrivent, comme Line, où j'espère vraiment qu'ils vont réussir à closer. Mais c'est vrai que souvent, le problème, c'est de se dire ils n'ont pas c'est nouveau comme secteur et ils n'ont pas forcément des investisseurs de modèles et de business models de référence. Voilà, et c'est toujours compliqué d'être le premier. Donc, là aussi, il va falloir un peu de temps, il va falloir trouver des investisseurs un peu plus audacieux. Et quand il y aura eu quelques succès, je pense que derrière, ça sera beaucoup plus simple. Ils pourront se rassurer en disant ok, ça marche. Mais oui, il y a des applications, il y a des services en ligne. Et j'espère demain aussi, il y a vraiment du matériel. Par exemple, si on parle de handicap, je ferai un petit clin d'œil à Rodolphe Brichet qui a le Handy Lover. Des années et des années se bat et qui a vraiment un produit que je trouve fantastique et au départ c'est sur le modèle d'un banc de sport genre rameur et qui en a fait un produit qui permet à des gens qui ont vraiment des gros problèmes de mobilité de multiplier, d'avoir d'autres positions pour leur sexualité et voilà, de faire l'amour de manière on va dire plus diversifié, enfin enrichi, et c'est génial. Voilà. Et donc, l'innovation, elle n'est pas forcément uniquement dans la technologie, dans le numérique. Elle peut être aussi des innovations comme ça, très, c'est très mécanique finalement. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour répondre à ta question sur l'éducation, malheureusement, c'est un peu comme dans la santé. Les marchés en France, c'est très compliqué parce qu'on a tendance à penser que la santé, comme l'éducation, c'est gratuit. Les gens vont se dire ils vont dire en même temps l'éducation à la sexualité elle est mal faite dans les établissements, ils ont raison, mais en même temps quand on fait venir des intervenants de l'extérieur, il y a certains parents qui disent ah oui mais c'est pas le lieu pour, sauf que quand ils disent ça, ils le font pas non plus à la maison, et après ils vont dire ah mais le méchant porno, oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Sauf que ces mêmes parents là et certains ne peuvent pas aussi, parce que ça pose un problème d'avoir une santé, une éducation à des vitesses, ne peuvent pas financer des applications ou des services. Donc c'est vraiment là une recherche de business model, l'État ne peut pas tout financer non plus, et qui est encore plus compliqué en France, parce qu'il y a des tas de pays dans le monde où les gens sont déjà habitués pour payer pour l'éducation et la santé, et donc si tu proposes une solution qui est vraiment pertinente, performante, ça peut marcher. C'est tout le, tu vois, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec Marianne de Perifit. Perifit, c'est une très belle boîte créée en France. Leur premier marché, ça sera jamais le marché domestique, parce qu'on a la chance d'avoir des séances de kiné payées, remboursées par la Sécu après un accouchement. Et par contre, dans certains pays, comme l'Australie ou les États-Unis, c'est pas le cas. Et donc, je suis prête à mettre plus de $100 dans un outil qui va me permettre, de pas avoir des conséquences de fuite urinaire et d'avoir un périnée en bonne santé. Donc, c'est vrai qu'on est un marché à la fois petit et complexe pour certains produits.
Oui, pour des produits, même les services, on pourrait dire aussi se payer les services d'une sexologue ou sexothérapeute. Je vois la différence parce que je consulte aussi, il y a des personnes un peu partout dans le monde, il n'y a aucun souci pour d'autres pays, et même ils se diraient même c'est peu cher, alors qu'en France ça serait plutôt c'est trop cher, quoi. Et donc il y a vraiment aussi cette culture Et cette culture aussi de l'argent, quand on est dans la santé, dans le bien-être, presque, c'est presque honteux de se faire de l'argent dessus.
Oui, et ça, c'est alors, on va nous moins avoir ce reproche-là dans la sextech, mais par contre, dès qu'on parle de santé ou de femtech, très, très rapidement, c'est quelque chose qu'on va nous opposer. Et non, vous voulez gagner de l'argent. Mais non, mais en fait, il y a un moment donné, pour faire des boîtes et faire des projets innovants, oui, il faut gagner de l'argent parce qu'il faut pouvoir le réinvestir, il faut pouvoir embaucher des gens et c'est des compétences. Et c'est vrai que sur la partie sextoy, je pense qu'on fera un webinaire l'année prochaine là-dessus parce que ça paraît simple, mais quand tu veux vraiment faire un sextoy from scratch, pour l'avoir fait, il faut beaucoup de compétences techniques, c'est beaucoup plus compliqué qu'on se compense, et un moule pour fabriquer un toy, c'est 50 000 euros. Une certification pour aller sur le marché, c'est 20 000 euros. Et donc, en fait, en gros, t'as absolument pas commencé à travailler que si t'as pas 150 ou 200 000 euros devant toi, rien que pour ça, pour mettre au point ton produit, tu ne peux rien faire. Et donc... donc, c'est... Oui, à un moment donné, c'est du coup des produits qui vont se vendre assez cher, ça s'explique.
Et c'est bien que tu dises et que tu parles des chiffres pour que vraiment les personnes se rendent compte que derrière un sextoy qui peut avoir un certain prix, il y a des coûts qui doivent être avancés, il y a des coûts qui doivent pouvoir pour perdurer aussi. Et on voit encore toute l'importance d'être des investissements, en fait, qu'on puisse aussi investir dans ces projets-là. Et tu parlais de la femtech, que c'est encore plus difficile peut-être cette vision qu'on a, elle gagne de l'argent alors que c'est sur des produits de santé. Peut-être qu'on ne se poserait pas cette question quand c'est des hommes simplement aussi qui proposent des produits.
Mais non, en fait, c'est pas tellement choquant pour les gens de se dire qu'on a fait la première imagerie complète totale du clitoris en 1997, je crois, ou 18. Et c'était 20 ans après le lancement du Viagra. Mmh, ouais. Et que si on regarde le nombre d'études sur les problèmes, les troubles de l'érection par rapport au nombre d'études sur les troubles du désir féminin, je pense que c'est un rapport de fois 1000 quasiment. Et donc, mais c'est parce que, encore une fois, c'est cette dimension politique, du corps des femmes qui a été emprisonné, et merci, non, en fait, on va pas lui dire merci, mais c'est, tu connais ça mieux que moi encore, c'est tout les dégâts de Freud aussi. Et on est encore dans ces schémas-là, et puis le plaisir féminin, donc cette dimension est très politique, et on y est encore. Enfin, c'est pour ça que souvent je dis, dans tout ce qu'on fait, la dimension, l'objectif, c'est de déconstruire ce dernier bastion et de le dégommer complètement du patriarcat qu'est la sexualité, parce que tant qu'on ne se sert pas, et encore une fois, j'en profite de l'occasion pour dire, on n'est pas en guerre contre les hommes, on est en guerre contre un système de domination qui dit que, et qui fait qu'on n'a pas les mêmes chances, les mêmes pouvoirs, les mêmes possibilités en fonction de son genre. Et ça, c'est quand même assez insupportable. On voit bien les dégâts, même dans le domaine de la santé et du plaisir. Mais tant qu'on n'aura pas dégommé ça et qu'on ne dira pas, notamment dans le domaine de la sexualité, en fait, il faut qu'il y ait une circulation des pouvoirs. Affranchissons-nous du dominant, dominé, pénétré, pénétrant. Réfléchissons différemment, faisons-nous un espace d'épanouissement, de jeu et de construction, de découverte, de curiosité. Et tant que cette sphère-là reproduira des schémas de domination qu'on a ailleurs et de virilité, de performance et autres, on voit bien tout ce que ça génère, on ne s'en sortira pas. Il faut vraiment attaquer ça.
Oui, et quand tu disais la sextech aussi, elle est là pour déconstruire un peu, repenser la sexualité, la réinventer. Il y a aussi des produits pour les hommes, justement, par rapport à ça, pour repenser aussi leur intimité, que ce soit en termes de masseur prostatique, tu parlais de pénétrant, pénétrer, de revisiter tout ça aussi. Il y a des produits qui sont aussi destinés pour eux. Est-ce que tu en vois d'autres de produits qui, pour toi, sont très excitants en termes de... Ça va aider les hommes à explorer leur sexualité d'une manière différente.
En fait, je trouve que se mettre dans la peau de l'autre, et peut-être qu'un jour, justement, tu parlais des casques de VR et autres, et d'expérimenter, d'être dans le corps d'une femme et de quel type d'expérience. Je pense que ça peut être très, très chouette. Mais je trouve que le fait déjà... Pour beaucoup d'hommes, et je parle là bien sûr d'hommes hétéros et peut-être plus de ma génération, mais déjà de déconstruire cette idée que oui, déjà ils ont le droit d'utiliser des toys eux aussi, que le plaisir prostatique, s'ils en ont envie, il faut qu'ils l'essayent, il faut qu'ils se débarrassent d'un certain nombre de tabous. Ils n'en seront pas moins hétéros d'élargir leur gamme de possibles en termes de plaisir. Mais en fait, rien que ça, c'est déjà juste énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que des outils, par exemple, qui sont au départ pensés pour les femmes, par exemple, si on reparle de Climax, je crois qu'aujourd'hui, la plateforme, elle est utilisée à 50% par des hommes qui ont envie d'apprendre aussi. Voilà. Et comme nous, je pense, les femmes, on serait pas contre des fois aussi de savoir comment mieux caresser un homme ou découvrir le corps de l'autre. Parce que même si on commence à faire des progrès sur la connaissance de notre propre corps, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre du corps des hommes. Et aussi souvent, peut-être réaliser du côté des femmes qu'on la charge. On parle beaucoup de nos injonctions à nous et de notre charge mentale à nous. Et je suis la première à défendre tout ça. Mais c'est vrai qu'être un homme aussi, parfois, c'est compliqué. Il y a aussi, ils sont aussi dans des injonctions contradictoires. On leur demande d'être sensible, d'être, voilà. Et en même temps, ils sont élevés dans une image où on leur demande d'être performants. Des femmes encore font croire aux hommes, enfin en tout cas c'est intégré que leur plaisir dépend de l'homme, mais non en fait. Et si déjà on déconstruisait ça, tout le monde serait dit « Ok, on se calme, voilà. » Et on va pouvoir se parler. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. Et quel que soit le sujet de la sextech ou le produit qui soit fait pour un homme ou pour une femme, je trouve, nous invite à cette réflexion-là, de sa propre sexualité, du rôle, à quelle injonction ou obligation sociétale on répond et de quoi on peut s'affranchir et de quoi on a vraiment envie. Voilà. Et moi, chaque fois que je prends la parole, c'est pour te dire, Roger, on n'est pas en train de dire à tout le monde, il faut vous masturber, il faut avoir un sextoy. Non, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de possibles. Et donc, autorisez-vous à. Et quand vous refusez des choses, faites-le uniquement parce que vous n'en avez pas envie, mais pas parce que vous pensez que ça ne se fait pas, ou quand, si vous êtes une femme, parce que, on n'a pas le droit, parce que des fois, tu le sais, j'imagine que tu le vois, il y a des femmes en couple qui arrêtent et qui n'osent plus se caresser en pensant que c'est une forme d'infidélité. De dire non. Tout ce qui concerne votre propre corps, vous en êtes maître, et donc à vous de choisir. Voilà, mais qu'on puisse tous faire des vrais choix de manière éclairée sur notre sexualité, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce dont on a envie, et pour travailler aussi sur cette assertivité qui est de dire je me connais, je sais dire non, mais je sais aussi demander. Et ça, c'est un travail de fond et on doit tous le faire. Et la sextech, je trouve, permet d'aborder tous ces sujets-là.
Ouais, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut, que les personnes puissent se connecter à vraiment ce qu'elles ont envie, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Et là, quand je dis personnes, que ce soit les hommes, tout comme les femmes, et comme tu dis, la sextech et tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire, j'ai l'impression et j'espère que ça va dans cette démarche-là. Et tu parlais on aurait tous à gagner, à savoir un petit peu ce qui peut plaire au partenaire. Alors, si on est dans un couple hétérosexuel, pour la femme, savoir ce que l'homme pourrait aimer, l'homme, ce que la femme pourrait aimer. C'est vrai que sur YouTube, j'ai l'impression que c'est ce genre de vidéo qui fonctionne plutôt pas mal aussi, genre comment faire plaisir à votre partenaire féminin en 3 étapes. Alors, même si c'est jamais juste simple comme ça, mais j'ai l'impression que les personnes sont à la recherche, en fait, sont en demande de ça. Et des fois, aussi, il peut y avoir cette croyance qu'en regardant cette vidéo, on saura tout du coup du plaisir de la partenaire ou du partenaire, et on oublie des fois la base qui est aussi de communiquer là-dessus. Tu parlais d'applications, est-ce que tu connais des applications qui existent déjà ou qui sont en développement sur des fois comment on peut communiquer aussi dans le couple? Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent permettre aussi ce dialogue qui, des fois, peut être difficile dans la relation?
Tu as raison, c'est vraiment le socle de se parler dans une communication bienveillante où chacun se sent libre de partager ses envies, ses fantasmes, ses interdits, ses limites. C'est vraiment la base, c'est rejoindre tout. Le consentement aussi rentre là-dedans. Alors, des applications, alors il y a une super qui s'appelle Edoni, qui est très chouette, en tout cas qui passe, je trouve, des messages vraiment très très justes sur la sexualité, l'ouverture d'esprit. C'est vraiment chouette. Il y a aussi des audios qu'on peut écouter en couple, qui s'appelle Tizi, donc ça peut être aussi des choses un
maintenant
petit peu...
Maintenant, c'est Melba, ils ont changé de nom.
C'est vrai, excuse-moi. Melba, c'est qui peut être, à un moment donné, de se dire, tiens, on tente une nouvelle expérience, et moi, j'ai envie de dire, même si des fois, on teste des choses et que c'est raté, en fait, c'est pas grave, parce que si on n'a pas pris de plaisir, ou peu importe, en fait, quand on est dans un moment comme ça de complicité, d'intimité, et si au final, on s'est déjà juste marré, mais c'est déjà juste énorme dans la relation
ça
à l'autre.
Ça apporte de la légèreté, ouais.
Exactement, on doit remettre beaucoup de fun dans la sexualité. Et puis, il va y avoir des applications de jeu, comme des private games qui permettent aussi de se découvrir, de se mettre des petits défis et du coup de créer des occasions de parler. Et là aussi, il y a un jeu. Alors, c'est pas forcément par une appli, hein, mais il y a vraiment des jeux de plateau, par exemple, qui s'appelle Smack et qui permet aussi de se dire, on éteint la télé, on pense à nous, on se fait une soirée fun et on va se faire une petite partie. Et c'est vrai que toutes les questions, il y a des questions des filles, il y a des questions devine-moi, il y a des questions... et c'est des très bons supports, en fait, pour se parler. Et ça peut être tout simplement aussi d'aller dans un love store, j'ai envie de dire, et d'aller dans les rayons et de se marrer et de dire « Ah tiens, et ça, et toi, est-ce que t'es... » Voilà, ça peut être juste ça aussi.
Oui, c'est vrai. Et tu as un compte Instagram, donc peut-être que tu vois aussi dans cette bulle sexo où il y a de plus en plus aussi, alors je vais mettre le mot de créatrice de contenu sexo, qui lance des jeux de cartes pour parler justement, pour que dans le couple ou même entre amis, on puisse discuter de sexualité. Je crois qu'il y a Merci Beaucoup, Cunu, Entre mes lèvres, enfin, c'est un plein boom aussi de jeux de cartes qui apparemment fonctionnent assez bien aussi. En fait, j'ai l'impression que les personnes ont besoin d'outils de tierces, et ça peut être le sextoy, ça peut être des applications, ça peut être des cartes, ça peut être des lubrifiants, mais un outil tiers pour parler en fait de choses qui peuvent des fois être tabous, où on se sent un peu vulnérable, où on ne sait pas par où commencer.
Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'on n'a jamais appris à faire ça. On n'a jamais appris à parler de sexualité. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens aussi, et peu de gens qui consultent finalement par rapport au nombre de gens qui sont en souffrance dans leur sexualité, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas un vrai problème. On minimise aussi l'impact d'avoir un problème dans la sexualité par rapport à la santé mentale que ça peut avoir. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au suicide d'être mal dans leur sexualité. Il y a, au-delà du bien-être physique, de l'épanouissement, il y a ces enjeux-là. Et c'est vrai que parfois, on reste bloqué dans des choses parce que, on est une femme, on ne se priorise pas, on ne pense pas à soi, on n'ose pas, on est là pour les autres, on n'est pas là pour soi. Les femmes, elles reportent beaucoup le moment d'aller chez le médecin aussi. Enfin, on le sait bien que c'est des comportements. Et si je suis un homme, il faut que je sois fort. Donc, c'est pareil, je ne parle pas de mes émotions, je ne partage pas mes problèmes et les hommes se suicident plus. On le sait aussi. Donc, et pour la sexualité, où sont les espaces de communication? Il n'y en a pas. On ne va pas forcément dire à son meilleur pote qu'on a un problème au lit avec sa femme parce que, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et on a peur de son jugement, du regard de l'autre. Et les espaces, c'est important du coup de trouver des moyens de créer ces espaces où on peut dire les choses. C'est vrai que tous ces jeux-là, les applis, peuvent être des très bons prétextes. Et pour les solos, parce qu'en fait, on peut avoir aussi une sexualité très, très épanouie en étant en solo. Et là aussi, ça peut être juste d'égayer, de diversifier.
Oui, j'allais rebondir sur solo et sur aussi, j'entends pas mal quand même là où on est un peu centré peut-être, je sais pas, pour des personnes, donc les relations, donc là c'est bien que tu parles aussi des personnes en solo, mais des relations de couple hétérosexuel, est-ce qu'il y a dans le milieu de la sextech des entreprises qui sont juste dédiées aux relations homosexuelles, que ce soit gay ou lesbien?
Oui, alors il y a des podcasts et puis en ce moment il y a une start-up qui est dans Sextech for Good qui s'appelle Majoie et qui développe un système de sous-vêtements avec un strap-on, avec un système assez innovant de connecteurs, et donc développé par un couple de créatrices qui créent ce produit-là parce que de tout ce qu'elles avaient essayé, elles n'avaient rien trouvé qu'elles trouvent de suffisamment ludique, confortable, et donc on va travailler sur le sujet, on va le faire. Donc ça c'est chouette. Après c'est vrai que on a de plus en plus d'entreprises qui quand elles font des produits essaient de les réfléchir pour toutes et tous, que ce soit pour les cosmétiques ou même les expériences audio-érotiques. Je parlais du jeu Smack tout à l'heure, les petits dessins sur les cartes. Il n'y a pas qu'un homme et une femme. Des fois, il y a deux hommes, des fois, il y a deux femmes. Je pense que c'est quelque chose qui commence vraiment à être intégré dans la conception même et dans la communication des produits, et c'est très bien.
Et alors moi, une question qui m'intéresse, et je sais aussi qu'il y a pas mal du coup de sexologues, sexothérapeutes qui écoutent ce podcast, est-ce que les sexologues doivent s'intéresser à la sextech? Et si oui, pourquoi? Quel est leur intérêt?
Mais bien sûr. Mais parce que je pense que vous pouvez trouver dans toutes les startups et dans tous les produits, dans tous les services, dans tous les apps, en fait des choses que vous pouvez recommander et que vous aux personnes que vous accompagnez, parce que on le sait bien que la démarche qu'ils entreprennent en venant vous voir, elle s'arrête pas quand on referme la porte du cabinet, et que souvent ça veut dire que, ben, il faut continuer à faire un travail sur soi ou un travail en couple, et c'est vrai que d'avoir une bonne maîtrise et une bonne vision en fait de toutes les ressources à disposition, je pense que ne peut faire que enrichir vos pratiques. Alors bien sûr, il faut que ce soit des choses que vous ayez regardées, qui correspondent à vos pratiques et à vos valeurs, à ce que vous avez envie bien sûr de partager, mais je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui font des choses très bien, et c'est vrai que ça peut être, je pense, vraiment bon. Et à l'inverse, pour les startups, c'est aussi très très bien d'avoir des gens qui peuvent les recommander et qui sont au plus proche en fait des besoins et des souffrances à des gens et qui connaissent pas forcément, qui savent pas forcément où chercher, regarder les startups, qui suivent pas cette actualité sextech, parce que bon, on a aussi des problèmes pour communiquer sur les réseaux.
On connaît.
La censure. Et donc, c'est encore une fois, c'est là où je dis, on va lancer un programme justement l'année prochaine, Sextech for Good, travailler de manière plus étroite avec les thérapeutes, parce qu'on a besoin de ce relais. Comme vous, je pense, vous pouvez avoir besoin de nouvelles ressources dans vos pratiques.
Ouais, super intéressant. Oui, c'est vraiment un win-win en fait, que les sexologues puissent s'intéresser à ce qui se passe dans l'innovation, dans ce qu'il y a déjà actuellement, parce que c'est des outils, c'est des ressources comme tu dis. Moi, à la fin des séances, j'adore proposer des ressources et selon ce qu'on a discuté en séance, et donc je suis toujours à la recherche aussi de choses, parce que c'est bien intéressant d'avoir toute une liste selon les demandes des personnes, et là tu en as cité déjà quelques-uns et quelques-unes d'applications qui peuvent aider. Donc déjà ça, parce que ça montre du coup aux personnes qu'on accompagne qu'on s'intéresse, on creuse, on est là, on propose des choses, et il y a quand même beaucoup d'applications, de plateformes où il y a quand même un accès gratuit. Après, il peut y avoir aussi un accès payant, mais il y a quand même pas mal de ressources gratuites déjà. Et puis pour les startups aussi, de s'intéresser aux sexologues, aux sexothérapeutes, qui est de plus en plus... On parlait de Climax, on parlait de Melba. Eh bien, c'est des entreprises, pareil, avec qui on peut faire du consulting aussi en tant que sexologue. Ça a été le cas pour moi, pour certaines entreprises. Et donc, il y a tout un enjeu d'aider les patients et les patientes, d'aider les startups et les startups qui sont accompagnées aussi par des professionnels de la santé sexuelle. Il y en a de plus en plus, je trouve.
Oui, et tu as raison de mentionner ce point, et je pense que c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait encore des connexions, de plus intimes, parce que on a des porteurs de projets qui se lancent et qui parfois ont des très très bonnes idées, y compris en femtech, mais ils ont ces idées-là parce qu'ils ont rencontré un problème ou c'est une pathologie dont ils sont concernés ou autre, mais pour autant, elles n'ont pas forcément les compétences et les connaissances de fondamentales, sur la santé, sur le corps, sur plein de choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pour booster un projet, pour en faire vraiment quelque chose d'efficace, parce qu'il faut que ça marche, faut pas vendre n'importe quoi. On parle quand même de la santé des gens, même quand on parle de plaisir. Oui. On disait, il y a un lien avec la santé mentale, on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est bien pour toutes ces startups aussi de se dire, on peut collaborer et on doit collaborer avec des sexos, parce que on a besoin. Et je dis pas juste d'aller les chercher pour avoir une caution. Je vois qu'il y en a des fois sur les sites en disant, oui, on va recommander des sextoys par des sexo, c'est très bien, c'est la dimension conseil, mais je pense que cette intelligence-là et cette connaissance et ces compétences-là, elles doivent être intégrées vraiment dans la construction du produit, dans l'ingénierie du produit ou du service. Et c'est vrai que souvent, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément des mondes qui se connaissent. Et donc, d'avoir des endroits où on peut se faire rencontrer des thérapeutes avec des développeurs aussi de start-up peut être très, très intéressant. Parce que vous allez aussi pouvoir faire émerger peut-être aussi des idées de produits et de services que vous n'aurez pas le temps ou les capacités de développer parce que vous avez déjà un vrai métier et pourtant qui pourrait être une vraie offre supplémentaire, un bénéfice pour vos clients. Et donc voilà, on peut en créer des nouveaux business comme ça.
Ouais, des synergies comme tu disais tout à l'heure. Et là, on a vraiment parlé de Sextech for Good, donc le côté positif. J'aimerais bien qu'on aborde la partie un peu plus peut-être nuance ou peut-être voire même dérive, parce que ça peut être intéressant, parce que là, tu vois, on parle de tous ces startups ou les sextoys ou les plateformes d'éducation à la sexualité. Et nous, en tout cas, moi, je peux voir des fois, en fait, en séance, des fois aussi les conséquences peut-être un peu plus négatives des fois de ces plateformes ou de se dire, tu vois, par exemple, j'ai utilisé ce sextoys que je vois de partout et pour moi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je suis normale, pas normale? Ça peut créer de nouveaux complexes. Ou alors, j'étais sur cette plateforme d'éducation sexuelle et j'essaye, et tout le monde dit qu'il faut faire comme ça, mais moi, j'y arrive pas, ou mon partenaire n'arrive pas. ça peut créer aussi un sentiment de solitude aussi pour certaines personnes. Et du coup, ma nuance, c'est aussi de pouvoir être accompagnée des fois quand on se retrouve dans cette situation-là. Mais toi, qu'est-ce que tu peux entendre des fois soit de dérives ou de limites ou de choses qui peuvent être sextech, mais pas du coup dans le goût d'aspect, quoi.
Ouais, tu as raison. Il y a forcément, à chaque fois, ça ne reste que des outils, des technologies, donc on peut en faire le pire comme le meilleur. Donc c'est vrai qu'on a parlé du meilleur. Il y a aussi effectivement des dérives qui seraient comme ça une injonction à l'orgasme, à la jouissance, à la masturbation. Tout ça, c'est pour ça que tout à l'heure je disais attention. C'est juste de dire aux gens il y a des solutions et après faites les vrais choix pour vous. Et si vous n'avez pas du tout envie de rien de tout ça, c'est ok. À partir du moment où ça vous rend heureux que ce soit ok pour vous, c'est juste ça. Et c'est vrai que une femme qui n'arriverait pas à avoir un orgasme en achetant un womanizer alors qu'on lui a dit que ça faisait jouir la planète entière, elle va se dire oh, j'ai un problème, non, mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention dans les discours. Effectivement, dans ces cas-là, il faut vraiment être accompagné. On a besoin d'entendre non, vous êtes tout à fait normal et vous allez trouver votre plaisir autrement. Et voilà, on va faire un chemin ensemble. La pornographie. Il y a des dérives aussi. Le fait aussi d'être dans la jouissance mécanique, c'est-à-dire que le womanizer, ok, super, génial, ça marche. Ça marche sans doute très vite pour plein de femmes. Le problème, c'est que ça marche très vite aussi. Et que ça crée aussi des fois de se dire, ok, ben, quand j'arrive à jouir de manière très, très mécanique et systématique en sortant mon toy, il y a un moment donné, c'est de se dire, je n'arriverai jamais à retrouver les mêmes sensations avec un homme et un vrai, ou une femme, enfin, un vrai partenaire. Et donc, ça nous éloigne aussi de décor et ça crée des attentes et des grosses frustrations parce que si on attend de retrouver la même sensation, la même vibration ou le même niveau type d'orgasme, ça ne va pas arriver. Et donc, c'est vrai que je dis, moi, attention. Et c'est pour ça que quand je vois des nouveaux toys arriver avec de l'intelligence artificielle pour que le toy enregistre la manière dont vous jouissez arriver à l'orgasme le plus vite, pour moi, par exemple, ça, c'est une dérive parce que autant je trouve vraiment bien les toys pour jouir, pour se découvrir, autant être dans cette injonction, parce que là, c'est vraiment une injonction à on va vous monitorer et on va vous fournir. Voilà, pour moi, c'est hors de limite de la manière dont j'envisage la sexualité. Parce que là, on retombe dans le mécanique, dans le systématique et dans l'injonction à cette performance.
Ouais, t'as très bien décrit justement voilà ce qu'on retrouve en consultation. Et tu parlais des sextoys qui utilisent l'intelligence artificielle et ça peut poser aussi la question de l'éthique aussi. On monitore, donc ça veut dire qu'on stocke des données, des informations sur notre intimité. Ça pose la question de la barrière entre tiens, toutes ces données qui sont au plus proche de l'intime et comme on a pu voir aussi sur les applications de santé menstruelle. Ça, est-ce qu'il y a des lois ? Ah ouais, vas-y.
Oui, et justement, il y a un gros biais, c'est-à-dire que autant il y a maintenant beaucoup de choses sur les données de santé qui sont extrêmement réglementées, et donc quand on a quelque chose qui est un dispositif médical, on y est soumis. Donc ça veut dire, par exemple, si on est une start-up en France, d'avoir ces données sur des serveurs sécurisés qui sont hébergés en France et qui répondent. Et le cahier des charges est vraiment extrêmement lourd. Quand on est un sextoy, on n'est pas un dispositif médical et on est dans un vide juridique, et donc on n'a pas d'obligation. Voilà. Donc, oui, il y avait eu quelques temps des données qui avaient fuité d'un toy. Après, dans cette application-là, les données qui avaient fuité, c'était des gens qui déclaraient eux-mêmes leur orgasme dans l'appli. Donc, là aussi, c'est bien après d'aller taper sur les entreprises. Elles avaient mal fait leur boulot et effectivement, on avait des fichiers où on pouvait dire que Madame Michu, tel jour, avait eu un orgasme à telle heure. En même temps, Madame Michu, elle avait accepté d'appuyer sur le bouton pour déclarer son orgasme. Donc, voilà. Après, c'est aussi de la responsabilité de chacun. C'est comme quand on utilise les réseaux sociaux. On peut aussi mettre un minimum d'infos sur soi et les utiliser. On n'est pas obligé de mettre toute sa vie. Et voilà, donc là aussi, une responsabilité et un apprentissage des gens. Mais c'est vrai qu'il y a deux mondes très différents sur l'utilisation des données et la sécurité, qu'on soit dans la sextech ou la femtech, qu'on soit dans la santé ou dans le plaisir.
Et l'utilisation des données, ça peut être aussi for good, parce que justement, du coup, même sur, par exemple, si on reprend les applications pour le cycle menstruel, ben, on n'a jamais eu autant de données qui peuvent servir pour la recherche, qui peuvent servir pour proposer des solutions, qui peuvent servir à montrer peut-être des syndromes prémenstruels qu'en fait une majorité peut-être de personnes dans le monde vivent. Enfin, ça, du coup, ça permet de donner aussi, enfin, ces données-là peuvent être une ressource, une source enrichissantes pour le bien-être.
Oui, et elles sont essentielles, et notamment dans les startups qui se lancent aussi, par exemple, sur l'endométriose, parce que c'est des maladies auxquelles on ne s'est pas du tout intéressé, ou le SOPK, ou là, on a des solins, on a des lunas, on a ou des vulvae pour les maladies vulvaires qui font un travail incroyable. Et on en a besoin, parce que c'est vraiment des sujets... auxquelles personne s'est intéressé jusqu'à présent, et donc on n'a pas de cohorte de données. Et donc, comme aujourd'hui on est sur cette fameuse evidence-based medicine, il faut produire des données. Donc c'est vrai qu'on en a besoin. Par contre, effectivement, il faut que ce soit fait par des gens de sécurité. Et très honnêtement, les startups qui sont vraiment dans la santé et qui vraiment sont agréées ou qui vont retrouver dans mon espace de santé ou autre, c'est vraiment hyper sécurisé. Donc on en a besoin. Donc je suis d'accord, il y a un vrai potentiel pour vraiment un enjeu de santé des femmes. Et pas que le plaisir, hein, vraiment le santé de nos corps, de nos cycles et autres. Donc ça, tu as raison. Mais après, il y a toujours des dérives, mais c'est souvent des dérives de gens qui sont pas dans ces contraintes-là, hein, qui sont là que pour du business, parce que voilà, il y a la data, et c'est un nouvel or, une nouvelle richesse, un nouveau pétrole.
c'est la mine d'or. Et ces données-là peuvent être aussi, comme tu disais, un levier, en sachant qu'il y a, je sais pas, X personnes qui vivent ça, ça peut donner un intérêt pour les investisseurs en se disant, c'est le marché. Et donc, on va investir là-dedans parce qu'on comprend et on voit que finalement, il y a du besoin, quoi.
Exactement. Arrêtez de nous dire qu'on est un marché de niche, parce que là, on a 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui ont déclaré qu'elles avaient ce même problème et qui, pour l'instant, n'est pas adressé. Donc, voilà, allons-y.
Yes.
Il faut qu'on joue avec ça aussi, hein. Tu sais, c'est comme Lucille Pétavin quand elle parle du coût de la virilité. Ben oui, à un moment donné, c'est bien de mettre de chiffres. Oui, la virilité, le coût de la virilité, ça nous coûte 100 milliards par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'éduquer les garçons comme on le fait, et on continue d'avoir une éducation genrée avec toutes les répercussions que ça a, y compris sur la sexualité? Ou est-ce qu'on se dit que bon, là, de manière factuelle, il y a vraiment un problème et on pense différemment?
Ouais. Ouais. Et là, par rapport à la sextech, avant que je pose ma question finale, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important, que je ne t'ai pas questionné, ou qui te semble important de mentionner?
Bon, je crois qu'on a... Merci, parce qu'on a été assez exhaustif sur tous les sujets, je crois. Comme je le dis à chaque fois, c'est de dire aux gens, en fait, de se rendre compte à quel point... souvent on parle de sexe tech et ils vont penser tout de suite toy et le côté frivole et juste ludique, et je te remercie encore pour cette prise de parole pour montrer non à quel point c'est un vrai secteur d'innovation sérieux, avec des enjeux de santé, des enjeux d'une nouvelle société, d'un changement sociétal, voilà, d'une égalité plus grande entre les hommes et les femmes, d'un accès au plaisir vraiment pour toutes et tous. Donc c'est des sujets de société, c'est des sujets d'humanité, et donc c'est vraiment important qu'on puisse le dire et que les gens le comprennent. Je pense qu'on leur a donné beaucoup d'exemples. Donc voilà, vraiment merci pour tout ça. Et puis pour les femmes, de ce que je fais aussi sur sexualité positive, c'est de se rendre compte à quel point c'est intéressant pour elles aussi de faire ce pas de côté, d'enlever par le biais de ce genre aussi, et d'éducation qu'elles ont reçue et de la société dans laquelle on est. À quel point ça contraint leur liberté, à quel point souvent ça contraint leur audace, leur ambition, le fait d'oser ou pas. Et que voilà, il faut vraiment qu'elle regarde, parce que ça peut changer une vie. Voilà, de se sentir mieux, confiante, bien dans ses baskets, en légitimité, de se prioriser, de s'accorder du temps. Enfin, ça peut vraiment voilà faire beaucoup dans une vie. Donc c'est dommage de passer à côté de ça.
Ouais. Donc on espère qu'il y a des investisseurs qui nous écoutent et qui vont venir investir dans la sextech en France, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et alors, si les gens devaient retenir une seule chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, quelle est la première chose qui te vient en tête?
Le bonheur.
Bonheur.
Oui, je crois que c'est... Ouais, on a malheureusement fait souvent de la sexualité quelque chose de naturel. On est des êtres désirants jusqu'à la fin de notre vie. On est des corps désirants. On a cette capacité à produire du plaisir, du bien-être. C'est naturel. Et on en a fait souvent de cette sexualité quelque chose de complexe et de tabou. Rendre les gens parfois très heureux, mais souvent malheureusement aussi très malheureux. Et plein de choses qui les empêchent dans leur vie. Et je crois que... Il y a vraiment cette dimension-là de la joie et du bonheur, de l'épanouissement par ce biais-là. Et j'aimerais bien qu'on regarde la sexualité, encore une fois, c'est mon message, de manière beaucoup plus positive.
D'où ton compte Instagram, Sexualité Positive.
Oui, pour changer de vision et de se dire on peut réamener de la légèreté, du ludique, tout en étant bien conscient de ce que ça nous apporte et à quel point c'est structurant, à quel point c'est politique. Enfin, c'est un vrai sujet, mais à quel point, dans la manière dont on le vit, on peut le vivre aussi de manière légère et de le voir aussi comme un levier d'empouvoirment, comme un levier voilà, de liberté, d'audace, de bien-être. Et puis voilà, quand on a pris du plaisir, seul, à deux, à trois, comme on veut, voilà, on a quand même vachement bonne mine, on a du rose aux joues, on se sent fort, on se sent cet état-là, bah, il est quand même vachement chouette.
C'est vrai, c'est assez chouette. Et je mettrai du coup ton compte Instagram, je mettrai aussi le site Sextech for Good pour que les gens puissent se renseigner, puissent peut-être être membres aussi, hein, parce que j'ai vu qu'on peut devenir membre. Est-ce que tu veux dire un petit peu plus ce que c'est exactement?
Alors, on cherche des partenaires pour faire des actions. Si vous avez un projet ou une start-up dans le domaine-là, la sextech, vous pouvez nous rejoindre aussi. Comme je disais, si vous êtes thérapeute, on va lancer des actions en 2023 avec vous. Justement, la première idée, c'était de travailler sur une newsletter pour vous l'envoyer tous les mois, pour vous présenter des start-up, des outils, pour que vous puissiez enrichir vos pratiques par rapport à ce qui est fait. Donc, ça peut être première étape, avant d'organiser peut-être des rencontres. Enfin, en tout cas, on est dans la construction, donc l'idée c'est aussi d'être à votre écoute de quoi vous auriez besoin, et puis des partenaires, parce qu'on doit continuer à faire des événements qu'on ne vit qu'avec nos cotisations. Donc c'est vrai que si on peut faire des opérations croisées sur des événements, sur des conférences, sur des prises de parole, sur des hackathons dans les écoles, en fait ça peut être mille choses, voilà. Et pour des startups qui seraient plus côté femtech, elles peuvent aussi rejoindre le collectif, j'en profite parce que je suis dans les deux et qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé. Et là, c'est toujours intéressant de rejoindre un écosystème, de partager ses compétences, ses connaissances, de travailler avec ses pairs, parce qu'on est sur des sujets pas faciles, où on n'est pas si nombreux que ça, et donc on a vraiment plus à gagner à être dans la synergie et dans le collectif aujourd'hui que de se regarder et d'imaginer des concurrences. Non, et ça, les femmes le savent très bien le faire, la sororité, et donc on doit miser là-dessus. Voilà.
Yes. Tous et tout ensemble pour justement la même mission, et c'est vraiment et c'est ce qu'on entend et c'est ce que je vois de ton travail, c'est vraiment ta mission. Donc merci pour ça, merci pour ce que tu fais dans le milieu de la sexualité et du futur de la sexualité aussi. Donc on doit te remercier pour tout ce travail qui c'est ta vie, c'est ta passion, oui. Ça te prend beaucoup de temps, donc merci pour ça, et puis merci d'avoir du coup accordé aussi ton temps pour ce podcast. Un grand merci Christelle, et je te dis à bientôt.
Ouais, merci beaucoup Camille, c'est un plaisir, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.